Il est 17h en temps universel, 19h ici à Paris, vous écoutez RFI.
RFI Soir.
Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 1er juillet, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Je vous propose de rester avec nous pour les 3 heures d'information à venir. Dans 30 minutes, le débat du jour, on va revenir sur les résultats du premier tour des élections législatives en France. Grande victoire pour le Rassemblement National et lourde défaite pour le camp présidentiel. Alors les macronistes peuvent-ils encore rebondir et sauver leur mouvement? C'est la question que je poserai à mes deux invités. À 20h10, hors de Paris, ce sera décryptage. Anne Corpé va analyser les enjeux de l'arrivée de Viktor Orban à la tête du Conseil de l'Union Européenne. Le Premier ministre hongrois eurosceptique qui prend la présidence tournante à partir d'aujourd'hui, à suivre après la première édition d'Afrique Soir. Et puis à 21h10, votre heure de reportage, Accent d'Europe se projettera notamment vers les législatives, cette fois-ci en Angleterre, ce sera jeudi, et il sera question des conséquences du Brexit sur l'économie britannique. Le grand reportage de ce lundi, lui, vous emmènera ensuite aux Philippines, à la rencontre des familles de victimes de la guerre contre la drogue. Ces familles attendent désormais une réponse de la justice. Voilà pour le programme. On commence d'abord par le Grand Journal International avec Juliette Pietraszewski. Bonsoir Juliette.
Bonsoir Clotilde, bonsoir à tous.
Et à la une, Juliette, en France, l'heure est au désistement.
Au lendemain du premier tour des législatives et d'un score historique pour l'extrême droite, nous ferons le point sur les stratégies mises en place par la gauche et la majorité. Ce sera le dossier de cette édition. Dans l'actualité également, aux États-Unis, la Cour suprême retarde à nouveau le procès fédéral de Donald Trump. Elle reconnaît également une présomption d'immunité. On fera le point dans ce journal. En Mauritanie, la commission électorale confirme la victoire de Mohamed Ould Ghazouani, le président sortant. En sport, on fera bien sûr un passage à l'Euro 2024 avec le match France-Belgique qui est en cours. Et puis, nous reviendrons sur la disparition de l'écrivain albanais Ismaël Kadare. Il s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 88 ans.
Et on démarre donc cette édition, Juliette, en France, au lendemain d'un scrutin historique au premier tour des législatives anticipées.
Le nouveau Front populaire et l'Alliance présidentielle peinent toujours à s'accorder sur une stratégie commune pour faire face à la montée du parti d'extrême droite de Marine Le Pen. Le Rassemblement national a pris une large avance lors du premier tour. Aurélien Devernois, bonsoir.
Bonsoir Juliette, bonsoir à tous.
Si la gauche et les écologistes tiennent très largement leur engagement à se désister dans les circonscriptions menacées par le RN, du côté du camp macroniste, c'est plus compliqué.
Oui, depuis ce matin, le nombre de désistements augmente dans les rangs de Renaissance, du Modem, d'Horizon, mais le total est encore très loin du NFP. Selon Le Monde, l'Alliance de la gauche et des écologistes s'est en effet retirée dans la quasi-totalité des circonscriptions où elle est arrivée troisième derrière le RN et le camp présidentiel, soit près de 130 désistements et tout le monde a mis au pot plus de 50 abandons côté LFI, 35 côté PS, 25 chez les écologistes et 15 côté communistes. Le front républicain invoqué par les leaders du NFP hier est donc en marche. Côté alliance présidentielle, la cloison n'est pas aussi étanche. Une petite cinquantaine de désistements sur une centaine possible. Ça bloque notamment pour les retraits en faveur de LFI, conséquence directe du ni RN ni insoumis martelé pendant toute la campagne. Il faut tout de même constater qu'une poignée de candidats ensemble s'est malgré tout retirée face à des rivaux du mouvement de Jean-Luc Mélenchon.
Des désistements qui de toute façon ne garantissent pas forcément le report de voix, Aurélien.
En effet, la grande inconnue se situera en réalité dans le choix des électeurs face aux urnes dimanche. Pour vous donner une idée, lors des législatives 2022, environ un tiers des électeurs macronistes avaient voté pour l'ancienne Union de la gauche lors du second tour, lors des duels RN-NUPES. C'était à peu près l'équivalent dans l'autre sens, c'est-à-dire le vote de la NUPES en faveur des candidats macronistes. Mais c'est beaucoup plus incertain cette année en raison du rejet très fort du macronisme à gauche et du procès en extrémisme et en compromission fait par le camp présidentiel au nouveau Front populaire. La réserve de voix pourrait en réalité être assez faible lors du second tour, même en cas de désistement, à l'avantage bien sûr du Rassemblement national. Outre les triangulaires, le NFP affronte le RN dans 72 duels de second tour. Pour l'instant, et en comptant seulement le cas des triangulaires, une quinzaine de candidats du camp présidentiel appellent clairement à voter NFP, et de nombreuses figures macronistes comme Bruno Le Maire ou l'ancien Premier ministre Édouard Philippe ont affiché leur hostilité absolue aux insoumis.
Merci pour cet éclairage Aurélien Devernois. Je rappelle que vous êtes journaliste au sein du service politique de RFI et ce dossier a été réalisé avec Marius Roland. RFI, on parle football à présent et on va se connecter en Allemagne avec Antoine Grenier pour faire un point sur le match France-Belgique en 16e de finale. Antoine Grenier, comment s'en sortent les Français pour l'instant ?
La seconde période vient de redémarrer. Il y a désormais à peu près 3 minutes. Juliette est toujours 0-0 entre l'équipe de France et l'équipe de Belgique. Des Bleus qui auront dominé la première période, qui se seront créés les meilleures occasions. Mais Marcus Thuram à deux reprises et Aurélien Tchouaméni sur deux frappes n'ont pas trouvé le cadre de Koen Castells, le gardien des Diables Rouges. Une équipe de France impuissante offensivement. C'est un peu la difficulté des Bleus depuis le début de 7 euros. Et là, avec la tentative d'Aurélien Tchouaméni, la frappe repoussée par Koen Castells en corner, l'équipe de France va se doter d'une nouvelle occasion. Toujours 0-0 entre la Belgique et la France ici à Düsseldorf.
Merci beaucoup Antoine Grenier, on reviendra vers vous s'il se passe quelque chose.
RFI, il est 13h06 à Washington. Les présidents américains bénéficient au moins en partie d'une immunité pénale, c'est ce que dit la Cour suprême.
Effectivement, la Cour suprême des États-Unis a rendu sa décision sur la demande d'immunité de Donald Trump dans les poursuites dont il fait l'objet pour sa tentative de renverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020. Nous sommes avec Guillaume Nodin à Washington. Bonjour Guillaume.
Bonjour Juliette.
Et c'est une grande victoire pour l'ancien président.
Oui, et d'ailleurs Donald Trump ne s'y trompe pas, il salue une grande victoire pour la Constitution et pour la démocratie américaine. Les 6 juges conservateurs de la Cour, dont 3 nommés par ses soins, accordent au président ou aux anciens présidents l'immunité présumée pour les actes officiels et même l'immunité absolue pour tout ce qui est des relations avec le département de la justice. Autrement dit, le président peut poursuivre qui il veut, même s'il n'a pas de preuves, et fait ce qu'il veut tant que cela reste dans le cadre de ses fonctions. Les 3 juges libéraux marquent leur désaccord avec cette décision qui, selon eux, met en danger la démocratie américaine. Les 6 conservateurs affirment en revanche que cette décision ne place pas le président au-dessus des lois puisqu'il ne dispose pas de l'immunité pénale pour ses actes non officiels. Et c'est là tout le nœud du problème. La Cour du district de Columbia qui va devoir déterminer tout ça dans une affaire qui est déjà de fait amputée d'une partie non négligeable des accusations, va devoir prendre du temps et ces décisions seront susceptibles d'appel. Cela signifie donc qu'il n'y a pratiquement aucune chance que cette affaire soit jugée avant l'élection présidentielle du 5 novembre. Et comme les 2 autres procès au pénal contre Donald Trump, l'affaire des documents secrets en Floride et la tentative de renversement de l'élection en Géorgie sont dans les limbes, le terrain judiciaire est désormais largement dégagé pour la campagne Trump.
Merci beaucoup Guillaume Nodin à Washington. Dans l'actualité également du côté du continent américain, l'ouragan Beryl se renforce à nouveau. Il menace le sud-est des Caraïbes, classé à nouveau en catégorie extrêmement dangereux par le Centre national des ouragans de Miami. Des habitants se sont barricadés. Des vents très violents ont également été enregistrés, notamment à la Barbade.
En Mauritanie, la victoire du président sortant est confirmée.
La commission électorale a officialisé et confirmé les résultats provisoires que l'on pouvait déjà voir sur son site Internet. 7 candidats étaient en lice. Elle confirme donc la victoire de Mohamed Oul Ghazouani avec un peu plus de 56% des voix et 55,39% de participation. Les précisions avec Léa Breuil.
Avec un peu plus de 56% des voix selon les résultats provisoires, après le dépouillement de tous les bulletins, l'actuel chef d'État obtient la majorité absolue dès le premier tour. L'opposant Biram Nahabed, lui, arrive en seconde position, comme lors de la dernière présidentielle, mais cette fois avec un peu plus de 22% des voix, contre 19% en 2019. Il a déclaré hier lors d'une conférence de presse qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats de la commission électorale, qu'il accuse d'être instrumentalisé par le pouvoir et dénonce une fraude électorale. De son côté, le candidat islamiste du Tawassul, premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale, Amadi Oulsid El Mokhtar se classe 3e avec légèrement moins de 13% des voix. Les autres candidats ne réalisent eux que des scores en dessous de 4%. L'avocat Elid Mohamedine est 4e avec 3,5% des voix, suivi du candidat de la JDMR Mamadou Bokar Ba et du professeur Outouma Soumaré qui obtiennent un peu plus de 2% des voix. Enfin, Mohamed Lemine El Ouavi, ancien candidat à la présidentielle, ne dépasse pas les 1%. Ces résultats provisoires doivent encore être transmis pour validation au Conseil constitutionnel après examen d'éventuels recours. Léa Breuil, Nouakchott, RFI.
Et on va prendre la direction de l'Italie. Une opération dénommée Molecola, menée sous la direction du parquet de Busto Arsizio, près de Milan, a conduit à la découverte de tonnes de composants chimiques. Ça s'est passé à l'aéroport de Milan-Malpensa, puis dans les entrepôts à Varese. Les composants en question provenaient de Chine et sont destinés à la production de drogues de synthèse. Correspondance à Rome, Anne Lenir.
L'enquête a permis de saisir plus de 6 tonnes de précurseurs sous forme de poudre utilisées pour la fabrication de MDMA, plus connue sous le nom d'ecstasy, une drogue qui peut être mortelle. Cette immense quantité, en provenance de Chine, aurait permis de produire 63 millions de pilules d'ecstasy pour une valeur commerciale estimée à 630 millions d'euros. Les substances chimiques auraient dû être distribuées par une société basée près de Milan dans divers pays européens. Parmi ces derniers, les Pays-Bas, où grâce à la collaboration de l'agence judiciaire Eurojust, un lieu de stockage de stupéfiants a été identifié et 2 ressortissants chinois ont été arrêtés. Tandis qu'à Milan, un entrepreneur également chinois fait l'objet d'une enquête préliminaire. Il est soupçonné d'avoir supervisé l'importation de Chine des substances servant à la production de drogues de synthèse. Le résultat de l'opération dénommée Molécula, est jugé exceptionnel par les autorités italiennes. Anne Lenir, Rome, RFI.
On reste en Europe avec la Hongrie à la tête du Conseil de l'Union européenne. La Belgique laisse la place au pays de Viktor Orban pour une période de 6 mois. Et face aux nombreuses craintes à Bruxelles, le Premier ministre hongrois assure qu'il agira avec impartialité. Le gouvernement Orban s'est également dit prêt à assumer les obligations et responsabilités de sa mission qui va durer jusque décembre. Quant à l'état de droit, l'immigration ou le conflit en Ukraine, la Hongrie souhaite faire entendre sa voix discordante qui lui a déjà valu des bras de fer répétés avec ses partenaires et le gel de milliards d'euros de fonds européens. Un point sur la situation à Gaza. L'armée israélienne vient d'ordonner une nouvelle évacuation dans le sud de la bande de Gaza et notamment à Rafah, où des centaines de milliers de Palestiniens ont déjà dû fuir les combats il y a plusieurs semaines. Cet ordre survient après le tir ce matin de 20 projectiles selon Israël en provenance de la région de Ran Younes. En parallèle, le ministère de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan de 37 900 morts à Gaza depuis le début du conflit.
Il est 17h12, en temps universel, l'écrivain albanais Ismail Kadare s'est éteint ce lundi à Tirana. Il était âgé de 88 ans.
C'est une immense figure des lettres européennes qui nous a quittés. Alors qu'a-t-il écrit ? Bien notamment Le Général de l'Armée Morte, son premier roman publié en 1963. Cette œuvre le fera connaître dans son pays et à l'étranger. Ismail Kadare avait obtenu l'asile politique en France en octobre 1990 après avoir rompu avec le régime de Tirana. Et depuis quelques années, il vivait entre les deux pays. Kadare laisse derrière lui une œuvre forte d'une cinquantaine d'ouvrages allant du roman au théâtre et à la poésie avec une volonté constante d'affirmer sa liberté face au totalitarisme. RFI a fouillé dans ses archives. En 2017, Kadare était l'invité de Catherine Fruchon-Toussaint pour la sortie de son livre Matinée au Café Rostan, café parisien où il avait pris ses habitudes comme un symbole de liberté pour Ismail Kadare.
L'Albanie, c'est un pays qui avait beaucoup de café, toujours. Même maintenant, j'ai lu il y a quelques jours dans la presse, Tirana, c'est parmi les capitales européennes qu'il y a le plus grand nombre de cafés. J'ai écrit dans mon livre que pendant le régime communiste, les cafés, ils ont perdu un peu leur mystère, etc., parce que le régime n'aimait pas.
Oui, ça veut dire que le café, c'est un espace qui symbolise la liberté, oui. La création artistique.
La liberté de penser, de parler, de dire les choses pas officielles, les choses qui changeaient beaucoup de langage de la presse, de meeting, de conférence, de plénum, etc. Le café, c'était beaucoup plus humain, toujours.
Ismail Kadare avec Catherine Fruchon-Toussaint en 2017 dans l'émission Littérature sans frontières sur RFI. Et on va finir ce journal en musique, Clotilde, rythme voluptueux, paroles mélancoliques. Voici Vince Staples, rappeur de la côte ouest des États-Unis. Après un détour sur le petit écran, il revient aux platines avec un 6e album, Dark Times. Olivier Roger l'a écouté pour nous.
Avec son flow traînant, sa musique au croisement du Motown et du gangsta rap et ses textes grinçants, Vince Staples a des allures de dandy désabusé des banlieues incertaines de l'Interland californien. Le musicien de Long Beach n'a pas son pareil pour décrire d'une plume précise les sentiments de vacuité et d'insécurité que l'on peut éprouver dans l'Amérique des ghettos. « Avec ses promesses baignées de lumière noire, Dark Times, sixième album de Vince Staples, offre un panorama éblouissant du talent créatif du rappeur, car s'il vient à l'origine du gangsta rap, Vince Staples est aujourd'hui un avant-gardiste ouvert à tous les styles, y compris à l'électropop. Celui qui en 10 ans s'est construit une réputation flatteuse au point de séduire Gorillaz et Damon Albarn, qu'il avait invité sur l'album Human en 2017, ne se limite pas à la musique. Netflix a produit cette année une mini-série qu'il a écrite et dans laquelle il interprète le personnage principal, des tranches de vie sur la condition noire aux États-Unis, bourré de cet humour grinçant et détaché qui est désormais sa marque de fabrique. Love the east side streets, running with fly meets for they book, cuz let pack free. For the F's turned ICG. I was lace cleats trying to make plays, cuz a broke ass nigga don't eat. If you woke up, better don't come.
Dark Times de Vince Staples, et c'est sur cette musique que je vous laisse.
Voilà, c'était le grand journal du soir. Merci beaucoup Juliette Pietraszewski. Il est 19h15 sur RFI, restez avec nous. On passe le début de soirée ensemble. On va parler législative, hein. Élections à venir au Royaume-Uni, ce sera jeudi, alors que le pays va mal dans de nombreux secteurs et notamment dans la santé. Ce sera à la une demain du journal La Croix, on va en parler. Puis législative en France, avec la défaite du camp présidentiel au premier tour. Va-t-il pouvoir renaître de ses cendres malgré tout? On en discutera avec mes deux invités. Et d'abord les sports. Et c'est avec Babacar Diarra. Bonsoir Babacar.
Bonsoir Clotilde.
On commence évidemment par l'Euro de football et le match des Bleus.
L'équipe de France qui veut éviter de rester calée au huitième de finale comme lors de la dernière édition de l'Euro. C'était il y a 3 ans. On va retrouver tout de suite à Düsseldorf en Allemagne Antoine Grenier. Antoine, on vous a laissé sur une occasion de Tchouaméni. Est-ce qu'il y en a eu d'autres pour l'équipe de France alors que le score est 0-0?
Eh bien, écoutez Babacar, je vais vous donner une petite statistique qui va vous intéresser. 15 tirs pour l'équipe de France depuis le début de la rencontre, un seul cadré. Voilà, ça résume bien la prestation des Bleus qui se sont effectivement créés tout un tas d'occasions. Vous parliez d'Aurélien Tchouaméni, c'est d'ailleurs la seule frappe cadrée de cette rencontre côté bleu pour l'instant. Et il y a également eu Marcus Thuram qui a placé une troisième tête au-dessus des buts de Koen Castels, le gardien des Diables Rouges. Kylian Mbappé et ensuite à la 54e minute nous a offert un petit festival à l'entrée de la surface et à nouveau une frappe non cadrée du côté de l'équipe de France. Des Bleus qui poussent dans ce début de seconde période, ils sentent qu'il y a une possibilité face à une défense belge friable, en tout cas pas sereine du tout, mais pour l'instant les Bleus restent impuissants offensivement. Jules Koundé, tout à l'heure, bien lancé côté droit, a adressé un excellent centre vers Kylian Mbappé qui a raté sa reprise à hauteur du point de pénalty. Les Bleus poussent, mais les Bleus pourraient bien se faire punir sur cette contre-attaque belge avec Carrasco. Carrasco qui est lancé dans la surface. Carrasco, il va frapper. Le retour défensif de Théo Hernandez, impressionnant pour tacler ce ballon en corner. Toujours 0-0 entre les Bleus et les Belges, mais corner à suivre pour l'équipe de Belgique.
Merci Antoine, on vous retrouve dans quelques instants pour en savoir plus sur ce scénario de France-Belgique, huitième de finale de l'Euro.
En cyclisme, l'Érythréen Binyam Girmay a marqué l'histoire du Tour de France et même du sport africain cet après-midi à Turin.
En l'emportant sur le bitume piémontais, le sprinteur d'Intermarché Vanti est devenu le premier Africain à lever les bras à l'arrivée d'une étape de la Grande Boucle. Girmay y a devancé tous les cadors de l'exercice et franchi à 24 ans une marche supplémentaire dans sa carrière déjà riche. Un moment vécu évidemment avec beaucoup d'émotion à l'arrivée où sa réaction a été recueillie par Thomas de Saint-Léger.
Super happy. I don't know. I don't have words to describe.
Je suis très heureux. Je n'ai pas vraiment de mots pour décrire ce que je ressens. Jusque-là, j'étais très content de ma carrière. J'avais déjà marqué l'histoire. J'en étais fier. Et même si j'avais parfois envie de gagner juste pour moi, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui me motivait. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire, plus que jamais, c'est historique.
I believe today it was history.
C'était une journée de première hein, sur le Tour de France. L'Érythréen Girmay, vainqueur de la plus longue étape du Tour 2024, et l'Équatorien Richard Carapaz, nouveau maillot jaune, chippé au Slovène Tadej Pogacar. Il devra défendre sa première place au général demain dans les lacets du Galibier.
Allez, un mot de tennis, Babacar, avec la qualification de Gaël Monfils pour le deuxième tour de Wimbledon.
Monfils opposé à un compatriote, Adrien Manarino, battu en 4-7, 6-4, 3-6, 7-5, 6-4. En ce jour d'ouverture, comme le veut la tradition, le tenant du du titre, Carlos Alcaraz a ouvert le bal sur le central en dominant l'Estonien Mark Lajal 7-6, 7-5, 6-2. Chez les dames, l'information du jour, c'est le forfait de la numéro 2 mondiale, Arina Sabalenka, blessée à l'épaule. Allez, on a quelques secondes pour retrouver Antoine Grenier du côté de Düsseldorf. Est-ce que le score est toujours de 0-0 entre la France et le Belgique?
Toujours 0-0, Babacar, dans ce huitième de finale. Les Bleus qui vont tenter quelque chose offensivement. Didier Deschamps a remplacé Marcus Thuram par Randal Kolo-Muani un petit peu après l'heure de jeu. C'est le premier changement de cette rencontre. Mais pour l'instant, Kolo-Muani, il a failli obtenir une faute à l'entrée de la surface. L'arbitre a laissé jouer. Toujours 0-0 entre l'équipe de France et la Belgique.
Merci beaucoup Antoine. On rappelle que ce soir, il y a un autre huitième de finale à 19h temps universel entre le Portugal et la Slovénie.
On va suivre tout ça évidemment. C'était le Journal des Sports avec Babacar Diarra. Merci. C'est l'un des symptômes d'un pays malade. Le système de santé anglais est à bout de souffle. À tel point que c'est l'un des sujets de campagne à 3 jours des élections législatives. Chaque camp dit avoir un remède, mais en attendant, eh bien, les Anglais peinent à se soigner. Bonsoir Agnès Rotivel.
Bonsoir.
Du journal La Croix. Vous évoquez ce sujet demain dans vos colonnes. Alors concrètement, Agnès, jusqu'à quel point le système de santé est touché? Quelles sont les conséquences sur le quotidien des Anglais?
Les conséquences, elles sont pour l'instant très simples, c'est que beaucoup de gens ont du mal à se faire soigner en Grande-Bretagne et Rishi Sunak a reconnu lors de la campagne son incapacité à réduire le délai des traitements des patients. Pour vous donner un exemple, en février 2024, il y avait près de 3 millions de personnes qui attendaient depuis au moins 18 semaines de commencer un traitement qualifié de non urgent. Contre 193 502 personnes à l'arrivée des conservateurs au pouvoir en 2010, donc c'était il y a 14 ans. Et 4,1% des patients attendaient un traitement depuis plus d'un an. Donc en fait, si vous voulez, il y a la question des délais, mais il y a aussi la question de l'accès aux soins parce que les hôpitaux sont de plus en plus privatisés. Donc il y a à peu près souvent 2 étages privatisés et 1 étage où ça reste confié au NHS avec des moyens qui n'ont rien à voir avec les moyens des étages privés. Donc en fait,
le NHS, pour bien comprendre, c'est le service public, hein.
National Health Service, c'est effectivement né en 1948, après la guerre, et c'est le Parti travailliste qui a estimé qu'il fallait justement permettre aux Britanniques d'avoir accès à des soins dans tous les domaines. Et en fait, le NHS a permis aux Britanniques d'avoir accès aussi bien aux services hospitaliers, à la médecine générale, aux médicaments, aux lunettes, aux soins dentaires qui étaient gratuits pour tous. D'où l'attachement très particulier des Britanniques à son égard. Ils vous disent tous qu'ils sont attachés au NHS, même si ils reconnaissent que la plupart du temps, quand ils ne peuvent pas se faire soigner par le système public, ils sont obligés d'aller en privé quand ils en ont les moyens, parce que c'est très cher.
Comment est-ce qu'on en est arrivé là, Agnès Rotivel? Comment est-ce que les Britanniques en sont arrivés là?
Écoutez, ils en sont arrivés là parce que lorsque les conservateurs sont arrivés au pouvoir en 2010, ils ont trouvé que les dépenses de santé étaient beaucoup trop importantes et qu'il fallait les réduire. Et pour ça, eh ben, on a réduit on a sous-investi. Ils ont commencé à sous-investir le NHS et donc pas d'augmentation de salaire pour les médecins, pas d'augmentation de salaire pour les infirmières. Il n'y a pas eu d'investissements qui ont été faits ou très peu. Et du coup, le système s'est dégradé de lui-même. Ces dernières années, depuis 2023, on a une série de grèves qui impactent le service de santé britannique, qui vont des grèves des infirmières et récemment, là, des grèves des jeunes médecins qui réclament des augmentations de salaire et n'obtiennent pas de réponse ou trop peu. Rishi Sunak a proposé 10% d'augmentation de salaire et ils estiment que c'est beaucoup trop peu.
Qu'est-ce que promettent justement les conservateurs et les travaillistes pour remédier au problème? Est-ce que ça semble suffisant pour l'instant, les promesses?
Alors, à chaque campagne, les deux parties remettent le NHS sur le tapis en disant qu'ils ils vont faire ils vont réinvestir. Et Boris Johnson était un de ceux qui avait dit que les économies qu'ils allaient faire sur les contributions de la Grande-Bretagne à l'Europe, eh ben, allaient être réinvestis dans le NHS. Et puis, ça n'a pas été fait, comme d'autres choses d'ailleurs, d'autres promesses n'ont pas été faites par le Parti conservateur lorsque Boris Johnson était au pouvoir. Donc, après, j'ai pas besoin de revenir sur la crise du Parti conservateur, mais après Boris Johnson, il y a eu Liz Truss, et après Rishi Sunak, qui lui est un conservateur très à droite, et estime aussi que, ils ont échoué parce que ils n'ont pas, trouvé les moyens de sauver ce NHS. Alors, le Parti travailliste, lui, propose toujours de refinancer. Là, actuellement, le parti de Starmer, qui est donc le candidat du Parti travailliste, promet de refinancer le NHS. Il faut savoir quand même que la femme de Keir Starmer travaille elle-même dans le NHS. Elle était avocate et elle est rentrée dans le système de santé publique. Donc, on ne peut pas dire que Keir Starmer soit ignorant des problèmes du NHS. Et je pense que les travaillistes, s'ils veulent réussir, si jamais ils sont élus au pouvoir, ce qui semble être quand même le cas, s'ils veulent réussir, ils auront obligatoirement, ils passeront obligatoirement par un réinvestissement dans le NHS, parce qu'il faut vraiment sortir ce système de la crise dans laquelle il est, parce que
c'est un sujet,
l'autre conséquence. L'autre conséquence.
Important. On va devoir s'arrêter là, Agnès Rottivel, malheureusement, du journal La Croix. En tout cas, vous pourrez lire justement tout cet article demain, le système de santé britannique, un grand corps malade. Merci beaucoup pour ces explications.
Au revoir. Merci.
Alors, à l'inverse, justement, du Royaume-Uni où les ennuis se cumulent, eh bien, l'Irlande, elle se porte très bien économiquement depuis le Brexit. Sur les docks de Dublin, les immeubles de bureaux n'en finissent plus de sortir de terre. L'Irlande a su profiter du départ de son voisin de l'Union européenne. C'est le reportage de Clémence Pénard.
Les grues poussent comme des champignons dans Grand Canal Docks, aussi appelé Silicon Docks. C'est dans ce quartier d'affaires que sont concentrés tous les géants de la tech. Grâce à une imposition plus qu'attractive, 12,5% sur les sociétés contre 20% en moyenne, les GAFAM ont choisi de s'installer à Dublin il y a déjà plusieurs décennies. Et évidemment, ces multinationales stimulent la productivité du pays. Selon les derniers classements de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'Irlande est le pays le plus productif au monde.
Hi, Clémence. Nice to talk to you. How are you?
Emma Howard est économiste à l'Université technologique de Dublin.
Nous avons le plus haut niveau dans l'UE, mais lorsque vous décomposez ces chiffres, vous vous rendez compte qu'il y a de grandes différences entre la productivité du secteur étranger et celle du travail domestique. Une grande partie de cette productivité au travail est donc tirée des entreprises étrangères, pharmaceutiques ou bien des entreprises de technologie de l'information et de la communication. Communication, l'éthique.
And the ICT firms. L'attrait de l'Irlande en tant que pays où faire des affaires ne se résume pas uniquement à sa fiscalité. D'abord, l'Irlande dispose d'une main-d'œuvre très qualifiée. Ensuite, depuis le Brexit, l'Irlande est désormais le seul grand pays anglophone au sein de l'Union européenne. Un avantage qui profite au cabinet de recrutement Approach People, fondé par le français Laurent Gérard Clodon.
On note un changement suite au Brexit. Les entreprises qui ont relocalisé leur activité dans la finance ou la technologie, qu'ont quitté notamment la ville de Londres pour venir à Dublin.
Et selon Émilie Narcy, directrice des opérations chez Approach People, Dublin séduit également ceux qui n'arrivent plus à s'installer au Royaume-Uni.
Il n'y a pas besoin de visa, les démarches administratives sont extrêmement simples. On reste avec ce charme de la ville de bord de mer, avec les montagnes à côté, donc c'est le Londres en mieux.
Annika, employée originaire de Berlin, partage le même constat.
J'ai eu quelques conversations comme ça où l'on m'a dit « Ah, je voulais aller à Londres, mais maintenant je ne peux plus ». Donc j'ai l'impression que Dublin a vraiment été remis sur le devant de la scène. Et c'est un très beau pays, malgré la pluie.
En termes de recrutement, l'Irlande serait ainsi la grande gagnante du Brexit. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
Reportage à retrouver en entier sur le site internet et l'application Pure Radio de RFI. Il est 19h29 dans un instant. Le débat du jour sur RFI.
Priorité.
Vitalité Santé.
Chantal Laureau vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Pourquoi se sent-on incompris ? Comment reprendre confiance en soi et aller vers les autres ?
Mercredi.
Comment changer le regard sur le bégaiement ?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Polygamie, de l'intimité des foyers au sommet de l'État, comment les femmes en parlent.
Mercredi.
Apprendre à nager, comment rendre accessible ce savoir essentiel de sécurité publique.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.